L'église Parole du Salut vous invite à suivre ces messages évangéliques. Bonne écoute.
Ce soir, nous te rendons tout l'honneur. Te rendons toute la gloire. Nous reconnaissons notre Seigneurie que ta Seigneurie. C'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous t'acclamons, c'est pourquoi nous te saluons. Nous prions aussi de bénir cette heure et de permettre qu'elle serve à ta gloire, mais à notre bien et à notre édification. Au nom de Jésus, amen. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Devant, derrière, à gauche et à droite. Merci à notre chorale, merci à notre groupe d'adoration pour le merveilleux travail. Je voudrais nous proposer trois textes, ou quatre, qu'est-ce que j'ai dit, quatre textes ce soir, qui vont nous servir de point de départ pour aborder la troisième épreuve parmi les cinq épreuves d'Abraham. Elle aurait dû être la deuxième, souvenez-vous de ce que j'ai dit hier. J'ai dû un peu casser la chronologie, mais dans l'ordre, dans la chronologie, cette épreuve est censée être la seconde, la deuxième. Genèse au chapitre 12, notre lecture va du verset 10 au verset 20. Genèse 12, 10 à 20. Il y eut une famine dans les pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis-je, t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Nous lisons aussi Genèse chapitre 16, verset 1er au verset 6e. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie. Va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays des Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante, et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu les trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Ésaïe, avant-dernier passage, chapitre 30, verset 1er, ainsi que verset 2e. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et puis enfin, Matthieu, chapitre 13. Et notre lecture assez sélective va du verset 26 au verset 30. On aurait pu commencer au verset 24, mais pour faire l'économie du temps. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés pour les grenier. » Alors que nous sommes dans cette saison durant laquelle tous, vous et moi, nous désirons que Dieu puisse nous visiter, Dieu a placé dans mon cœur de parler de cette deuxième épreuve, d'après la chronologie, mais troisième épreuve, s'il faut faire la comptabilité selon tout ce que nous avons commencé à partager. Que Dieu nous visite en nous donnant une capacité, une vertu. Cette capacité, cette vertu qu'Abraham avait manqué et qui non seulement l'a mis dans des difficultés mais a failli même faire avorter et dévier les plans de Dieu, non seulement pour sa vie mais pour toute l'humanité. Je parlerai ce soir de la troisième épreuve que j'ai intitulée l'épreuve de la famine ou l'épreuve de la résolution des problèmes et de la gestion de la pression. L'épreuve de la famine ou l'épreuve de la résolution des problèmes et de la gestion de la pression. Il est étonnant comment quelquefois la vie peut nous réserver des surprises et des fois pas toujours des surprises agréables. Abraham est tout excité. Il vient d'avoir la révélation de Dieu au pays des Charan où il était. Dieu lui est apparu. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé, comme je le disais les premiers jours. Mais toujours est-il qu'il a la conviction que c'est Dieu qui lui a parlé. Et il prend la résolution d'aller dans la direction que c'est Dieu lui donne. Il quitte Charan et il vient comme presque un touriste, un explorateur. Il vient visiter le pays qui lui sera donné à lui et à sa postérité plus tard. N'est-il pas dit dans Genèse 12, 6, il vient jusqu'aux chaînes des Mamré. Mais, aux chaînes plutôt des Moré. Mais quand il arrive, la Bible dit que les Cananéens étaient encore dans les pays. Envoyé par Dieu, sur le chemin où il est, ce n'est pas lui seul qui est allé, c'est Dieu qui l'envoie. Et subitement, l'inattendu arrive. Il y eut famine dans les pays. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Il est possible qu'on soit dans la volonté de Dieu et que la famine s'invite. Ah, n'est-ce pas, c'est Dieu qui m'a envoyé sur ce chemin. N'est-ce pas Dieu qui m'a dit de prendre cette direction. Et puis voilà, une famine s'invite. Qui dit famine, dit problème. Un problème qui visite l'homme qui est en alliance avec Dieu. Ma Bible dit plusieurs mots atteignent souvent les justes. Ce n'est pas parce qu'on est juste qu'on est à l'abri des difficultés, des problèmes. Mais ma Bible ne s'arrête pas là et dit, mais l'Éternel en délivre quelquefois, n'est-ce pas? L'en délivre toujours. Mais nous voyons dans l'autre texte quasiment aussi la même chose. Celui qui est dans la volonté de Dieu 10 ans, il attend que Dieu agisse et Dieu n'agit pas. Un problème L'enfant tarde à venir, il faut trouver une solution. Ce soir, au travers de ce message, nous allons voir six choses. La première chose que nous allons voir, c'est que sur les chemins de la vie, que nous le voulions ou pas, nous rencontrerons les problèmes. Parler des problèmes cache quatre idées. Premièrement, les problèmes sont des situations dans lesquelles un obstacle se présente et empêche de progresser, empêche d'avancer ou de réaliser ce que l'on voulait faire. Problème. Deuxième idée cachée derrière les problèmes, c'est une difficulté mettant dans une situation pénible, contraignante et contrariante. Un problème, c'est aussi une question, une situation dont la présence empêche la quiétude ainsi que la tranquillité et dont la résolution n'est pas une option mais souvent une obligation pour retourner à un état initial bon. Mais quatrièmement, lorsque nous parlons des problèmes, un problème c'est une difficulté qui arrive et se présente soit subitement ou soit lentement, mais qui demande à ce que l'on puisse faire quelque chose. C'est la première des choses que nous allons voir ce soir. La seconde chose que nous allons voir, c'est que devant nos problèmes, il y a deux types de solutions. Devant chacun de nos problèmes, il y a deux types de solutions. Il y a les bonnes solutions et puis il y a les mauvaises. Les bonnes solutions, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ont six caractéristiques. La première caractéristique de la bonne solution, elle élimine entièrement les problèmes initiaux. Au fait, une solution n'est solution que si elle élimine les problèmes initiaux. Deuxième caractéristique d'une bonne solution, elle ne menace pas notre communion et notre relation avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, quand je trouve une solution à un problème, ma communion et ma relation avec Dieu doit être maintenue et doit même être un paramètre pris en considération. Est-ce que ce que je vais faire va casser ma relation avec Dieu? Troisième caractéristique d'une bonne solution, elle nous donne la paix. Quand tu veux résoudre ces problèmes et utiliser ces moyens, est-ce que tu as la quiétude? Est-ce que tu as le shalom de Dieu dans ton cœur? Ton mari avait dit, quand je vais rentrer, à 19h, je vais trouver ses costumes prêts, parce qu'à 19h30, je dois sortir. Et puis voilà, il y a une série qui passe à la télé, je ne sais quelle série en vogue ici. Et te voilà parti, non, je vais encore suivre. Et puis tu te rends compte qu'il a klaxonné, il est là. Le costume n'a pas été prêt. La solution qui vient, mentir. Chérie, depuis que tu étais parti, j'avais des maux de tête là. C'est sûr, il va venir, il va compatir, il va dire ngo, comme on dit chez nous. Ça fait rien, ça arrive, mais est-ce que tu auras la paix? Jamais oublié, un jour j'ai solutionné un problème à ma manière et le problème était résolu à l'extérieur, mais un problème avait commencé à l'intérieur. J'en ai parlé une fois ici. Je dépose mes filles le matin à l'école. C'était un vendredi, elles me disent, papa n'oublie pas, demain à l'école américaine il y a Fancifer. Et la date limite pour payer les billets, c'est aujourd'hui à 12h. Va payer parce qu'on tient coûte que coûte à y aller. J'ai dit, je vais y aller. Et je pensais vraiment y aller. Le temps que je sorte, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Pasteur, j'ai vu ton véhicule tout à l'heure. Est-ce que je peux te rencontrer vers la place Royale? J'ai dit, pas de problème. On a parlé 30 minutes. Je termine de parler. Je vais encore quitter quelqu'un. Il dit, oh, pasteur, je t'ai vu tout à l'heure vers la place Royale. Est-ce que tu peux venir vers l'hôtel intercontinental? Je vais parler avec toi. Et je suis allé. Il était encore 10h. J'avais 2 heures du temps. Mais quand j'ai quitté l'hôtel intercontinental, je connais un décalage des souvenirs. Oublie. Je suis rentré bonnement à la maison, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et à 13h, je devais venir chercher mes filles. Et j'avais même perdu de vue. Ce n'est que quand elles sortent la deuxième en courant, « Papa, est-ce que tu as payé les billets ?» J'ai dit, « billets. » J'avais le choix entre assumer mon oubli et justifier. Du reste, il dira, « Papa, j'espère que tu ne t'es pas seulement occupé des âmes et de l'Église et tu nous as oubliés. » J'ai dit, « Ah, si, j'ai dit, au fait, c'est ça. » Il va dire, « Ah, nous, on est sacrifiés. » J'aimerais vous dire la vérité. Gardez cela entre nous. Ne dites pas ça aux absents. Hein? Vous promettez? La suite, gardez-les pour nous. Non, non, surtout toi. Que les absents ne soient pas au courant. Le temps que j'ai réfléchi, j'ai dit, j'étais allé là-bas, j'ai trouvé les bureaux étaient fermés. Vous voyez, vous rigolez. J'avais dit que ça reste entre nous. Et je sais que ce n'est que moi qui ai fait ça. Il y a des gens qui sont en face de moi, ils ne peuvent jamais faire. Papa, vraiment, c'était fermé. Je dis, oui, mais ils sont désorganisés, ces gens. La deuxième a dit, bof, ça arrive. Problème réglé à l'extérieur. Mais dedans, aïe, 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 aïe. Les véhicules étaient climatisés, j'ai commencé à transpirer. Et ma fille, elle était juste devant, elle a pris une cassette. Vous savez, le jour où Dieu veut vous coincer, il met une cassette. C'était un chant d'un musicien chrétien chez nous, Mumbaya, qui chantait un cantique ou quelque part. Vous utilisez le mensonge comme un laisser-passer. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas changer les cantiques? Les problèmes, ce n'était pas les cantiques, c'est que ça a renforcé la lutte, là. Et j'ai transpiré. Ma fille a dit, papa, tu as un problème au départ. J'ai dit non. Et puis j'ai roulé un peu. J'ai dit, quelle question tu avais posée? Non, j'ai demandé si tu avais un problème. J'ai dit, oui, j'ai un problème parce que j'ai déjà menti. S'il doit encore ajouter. J'oublie jamais, j'ai arrêté le véhicule. De nature, je bégaye pas. Mais vous savez, quand vous avez un problème, vous commencez à bégayer. J'ai dit, papa, mes filles, j'aimerais vous dire une chose. Tout à l'heure, papa a menti. Silence, comme chez vous là. Silence. Voilà ce qui s'était passé réellement. J'avais oublié. Voilà ce qui s'était passé. Et je dois vous assurer, quand j'ai rétabli le mensonge à la place de la vérité, qu'est-ce que j'étais bien dedans. Je me demande comment les menteurs chrétiens vivent. Être menteur, être chrétien, serviteur de Dieu, mentir calmement. On t'a payé 300 euros là, tu sais qu'on met 200. J'ouvre encore une histoire dans une histoire. Un ami dit, il est allé travailler, son épouse dépensait tellement, on lui paye 300 euros. Il rentre et il dit, je vais donner 150. Et son épouse a toujours l'habitude, quand ils reviennent comme ça, ils doivent prier ensemble, s'en tenant la main dans la main. Et son épouse tient les mains, Seigneur, je te rends grâce pour les 150 euros qui ont été payés à mon mari. Et dit, moi, j'ai dit au fond de mon cœur, Seigneur, 300, Seigneur. Et j'ai expliqué aux filles, voilà, papa avait menti. Il y a eu un silence qui paraissait une éternité. Et comme d'habitude, c'est toujours la deuxième qui a brisé le silence. Elle m'a posé une question inattendue. Papa, les pasteurs mentent aussi. Je me suis surpris en train je ne sais pas si tous les pasteurs mentent, mais papa avait menti. C'était une solution, mais une mauvaise, comme j'en parlerai tout à l'heure. Une bonne solution nous donne la paix. Quatrième caractéristique d'une bonne solution, elle nous protège et protège nos intérêts. Nous le verrons avec l'exemple d'Abraham. Une bonne solution ne menace jamais nos intérêts. Cinquième caractéristique d'une bonne solution, elle n'entraîne pas des conséquences négatives en nous et tout autour de nous. Et puis enfin, sixième caractéristique d'une bonne solution, nous ne les regrettons jamais. Qu'il y ait de supposées solutions, mais que l'on regrette après. Une mauvaise solution a aussi ses caractéristiques. La première caractéristique d'une mauvaise solution, soit elle maintient les problèmes initials ou même l'aggrave. Une mauvaise solution maintient les problèmes initials, l'aggrave ou même crée un autre problème. J'ai en mémoire cette famille que j'ai visitée vers les années 91, membre de notre église à La Borne. L'enfant regardait la télé avec ses amis, je pense 6 ou 7 ans, et maman l'a envoyé pour acheter du sucre. Famille modeste et limitée en termes de moyens. Et je pense que l'enfant était un peu fâché, n'aurait pas voulu qu'on l'arrête dans son jeu. Au lieu de ramener du sucre, c'est du sel qu'elle a ramené. Et chez nous, c'est les marchandises vendues ne sont ni échangées ni remises. Or, maman avait des moyens limités. Et dans sa colère, cette maman s'est retournée. Elle a pris un morceau de bois. Je ne pense pas qu'elle visait l'œil. J'ai assisté à la scène. J'ai vu, pouf. J'ai vu comment l'œil gauche a commencé à couler. Pour peut-être 1 ou 2 euros de gaspiller toute une vie. C'est vrai, on ne devait pas acclamer cet enfant pour l'oubli. Mais en voulant apporter une solution, la solution a créé encore un autre problème. Une mauvaise solution maintient les problèmes initiaux intacts, l'aggrave ou crée un autre. Deuxième caractéristique d'une mauvaise solution, elle menace notre communion et notre relation avec Dieu. Troisième caractéristique d'une mauvaise solution, elle amène les troubles en chassant la quiétude et la paix. Là où une mauvaise solution, ça invite quiétude et paix sont absentes. Quatrième caractéristique, une mauvaise solution nous met en danger nous-mêmes ainsi que nos intérêts. Cinquième et avant-dernière caractéristique d'une mauvaise solution, elle entraîne des conséquences négatives en nous et même par extension tout autour de nous. Et surtout, sixième caractéristique, si nous avons une conscience, une mauvaise solution, nous les regretterons après à cause de tout ce qu'elle entraîne. J'ai connu cette jeune sœur qui priait dans l'une de nos églises, même l'une des premières églises sœurs de La Borne. Elle est de ma génération, on a quasiment grandi ensemble. Je pense qu'elle a connu le Seigneur à 18-19 ans. Je rentre à Nairobi où j'étais allé faire ma formation théologique, je la retrouve fâchée contre Dieu. Et déjà aujourd'hui, 29 ans, et j'en ai assez d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Du reste, on a trouvé en moi des fibromes et tous les médecins m'ont dit, si dans une année je ne mets pas au monde, il est possible que je ne mettrai jamais au monde. Mais il faut qu'un homme vienne. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Frère Roland, si ton Dieu ne fait rien, il va voir. Je comprenais son désarroi, je comprenais son trouble. Et je suis reparti en août 98. En 99, on me dit qu'elle est enceinte de son patron qui était un ministre parce qu'elle travaillait comme secrétaire. Énième femme, on peut dire, à Kinshasa. Et je reviens en décembre 2000, elle me fait appeler, je suis arrivé le 28, le 30, elle m'a fait chercher. Et quand je suis arrivé, je l'ai trouvée. Elle a maigri, elle a fané avec un enfant d'une année et demie. Mais si vous regardez cet enfant, vous donnez à cet enfant 3 mois. Un retardé mental. Et elle me disait, ça fait 11 mois depuis qu'on a découvert ce problème de retard, j'ai chaque jour envie de mettre de la scie dans les biberons. Cet enfant est un poids. J'aurais voulu ne jamais la voir. Ce qu'elle pensait être une solution est devenu un problème et un problème au carré. Comment tu résous tes problèmes? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, tu résous tes problèmes? Parce que les problèmes, nous les avons et nous les aurons. Troisième chose que nous verrons ce soir, c'est la nécessité qu'il y a dans la vie ou sur les chemins de la vie de savoir faire deux choses. La première, savoir prendre des bonnes décisions. Et quand je dis des bonnes décisions, au bon moment et de la bonne manière. Et surtout savoir bien résoudre les problèmes. J'aimerais ajouter, il y a des positions que soit la société nous donne ou nous-mêmes nous nous conférons qui fait que nous le voulions ou non, la résolution des problèmes sera l'une de nos activités principales. Nous serons appelés à résoudre nos propres problèmes, les problèmes des autres. Si vous êtes un leader, si Dieu vous a placé devant les gens, vous devez savoir, même si ce n'est pas mentionné dans votre job description, la résolution des problèmes, c'est votre lot. Quatrième chose que nous allons voir ce soir, c'est la nécessité d'éviter certains défauts dangereux dans la résolution des problèmes. Le premier défaut, c'est la légèreté. Le deuxième, c'est l'absence des réflexions. Et le troisième, c'est la précipitation. Cinquième chose que nous allons voir ce soir, c'est la nécessité de savoir gérer la pression. Qu'il y a des choses sur le chemin de la vie que nous ne faisons pas par nous-mêmes. Nous les faisons parce que les gens nous poussent. Nous allons les voir tout à l'heure avec Abraham qui allait vers Agar comme solution, non pas parce qu'il voulait. C'est Sarai qui dit « Vas-y, vas-y, vas-y ». Et nous verrons comment la même qui l'a poussé vers cette solution, c'est la même qui s'est présentée à victime après. Et laissant Abraham seul. Et la sixième chose que nous allons voir ce soir, et c'est même le nœud de mon introduction, la nécessité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de résoudre les problèmes de la bonne manière. Et pour résoudre les problèmes de la bonne manière en tant qu'enfants de Dieu, retenez bien cela, nous devons résoudre nos problèmes avec et selon Dieu. Nous devons résoudre nos problèmes avec Dieu. Dieu doit être partenaire dans la résolution. Pas comme dise quelqu'un, je mets la Bible de côté. Non, la Bible, on ne la met jamais de côté. Dans cette situation, j'oublie que je suis enfant de Dieu. Tu n'oublies pas. Résoudre les problèmes avec Dieu, il est partie prenante, mais aussi selon Dieu. En utilisant ces méthodes. Genèse 12, 5 à 6 et 10 nous parle de deux réalités. Abraham obéit à Dieu qui lui parle de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour aller là où Dieu voulait qu'il aille. Mais le verset 10, comme nous l'avons dit, quelque chose d'étrange, à l'endroit indiqué par Dieu, la Bible dit « il y eut une famine ». Et les contextes montrent que c'était le début. Mais à la fin du verset 10, il est dit, la famine était grande dans les pays. La version française courante dit, la famine devint si grave. La version de la Colombe dit, la famine s'apesantissait. La version Nouvelle Bible et Seconde dit, la famine pesait de plus en plus dans les pays. Et Tob dit même, la famine sévissait. Faisait des ravages. La famine exerçait une activité néfaste. La famine était difficile à supporter. Un problème se présente. Et devant ce problème d'une grande ampleur, Abraham, d'abord lui-même, mais surtout Abraham comme leader, ne peut rester passif. Pour trois raisons. La première, c'est que les problèmes touchent à un besoin dit primaire et fondamental. Les sociologues disent qu'il y a comme une hiérarchie des besoins. Et les besoins primaires, s'ils ne sont pas satisfaits, on ne peut même pas viser les autres. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des besoins que l'on peut reporter, mais les besoins en termes de manger et boire. La non-satisfaction de ces besoins peut mettre en danger la qualité de vie. Deuxième raison pour laquelle il ne pouvait pas rester passif, c'est que sa position l'obligeait à faire des choses et à poser des actes qui auraient des conséquences sur les autres, car c'est un leader et un meneur. La troisième raison qui l'obligeait à ne pas rester passif, c'est qu'un groupe de gens était connecté à lui. Genèse 12, 5 dit qu'il était monté avec femme. L'autre qui était son neveu, mais on parle aussi des serviteurs et des biens. Et les commentateurs disent que ça devait être des animaux. Et Abraham commet deux erreurs graves que la plupart des fois nous commettons quand nous sommes devant un problème. La première erreur, c'est qu'il décide seul et il met de côté le Dieu qui venait de se mettre en alliance avec lui. C'est comme s'il veut dire, Dieu, je n'ai pas besoin de toi dans ces problèmes. Dieu, mets-toi de côté. Je suis compétent moi-même. Je peux m'en sortir sans toi. Il décide où il doit aller, où il veut aller sans Dieu. Cette attitude est un mélange à la fois des rébellions et des légèretés. Manque de sérieux, manque de réflexion et de profondeur. Ésaïe 30, 1 à 2 que nous avons lu dit, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. » Une autre version dit, « Qui font des projets qui ne viennent pas de moi. » La version parole de vie dit, « Qui désobéissent et qui font des alliances sans ma volonté. » Et là-bas, il dit, « Pour accumuler péché, sur péché. » Et le terme péché là en hébreu veut dire rater son objectif. Chaque fois que Dieu n'est pas associé, nous passons à côté. Deuxièmement, devant ces problèmes, Abraham, qui a un sérieux problème, un problème réel, qui doit normalement trouver solution, pose deux actes qui vont les troubler. Il décide d'une destination, l'Égypte, et puis il décide d'une ligne de conduite. Vu la famine, je ne peux rester inactif. Je dois faire quelque chose. Tous ces gens dépendent de moi. Il faut aller quelque part. Il choisit l'Égypte. Mais en route vers l'Égypte, il connaît la mentalité de ces gens, leur inclinaison vers les belles femmes. Problème. Et il pense à sa solution à lui. Une solution irréfléchie. Une bonne solution pour lui. Mais une solution qui va lui créer des problèmes et les mettre dans les troubles. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est le chemin de la mort. Les versets 11 à 12 nous parlent de l'option qu'il lève en montrant qu'Abraham, malgré qu'il a Dieu, a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il panique facilement et facilement se met en insécurité. Mais deuxièmement, il ne croit pas à la protection de Dieu. Ou mieux, il croit en un Dieu limité. S'il croyait en un Dieu capable, il n'avait pas besoin de tous ces mensonges. Ils ont une réunion avec Saraï avant d'entrer en Égypte. À partir d'aujourd'hui, commence à m'appeler grand frère. Et moi, je t'appellerai aussi petite sœur. Et il motive cela. Et dans la motivation, on voit son égoïsme. Dis, je te prie que tu aies ma sœur, afin que je sois bien traité. Toi, tu passes en ton traitement et moi dans tout ça, qu'est-ce que je vais devenir? Afin qu'à cause de toi, je sois bien traité, que mon âme vive et dit grâce à toi. Et les versets 14 et 15 nous parlent de ce qui arriva à Abraham. Et versets 18 et 19 amplifient encore, j'aimerais rapidement lire ça. 14 à 15. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent et aussi la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. J'aurais voulu assister à la scène. Abraham, on prend ta sœur. Comme il est désiré, le verset 16 dit, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, de tous ceux qui avaient serviteurs, servantes, ânes et chameaux. Mais à quel prix? Quelqu'un dit, la Bible ne nous dit pas tout. Elle nous dit simplement l'essentiel. Parce que le verset 18 et 19 dit, alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Et ça, c'est Pharaon lui-même dit, pourquoi tu dis c'est ma soeur, aussi l'ai-je prise pour femme? Quand on prend quelqu'un pour femme, ça veut dire quoi? Moi, je m'arrête là. Chaque matin à 6 heures, Abraham venait chez le Pharaon, non, je viens voir ma soeur. Elle regardait ce qu'elle a les yeux rouges. Il t'a touché. Mais tu voulais brebis et âne, tu les as. Comment tu solutionnes tes problèmes? Est-ce qu'il dormait seulement? Dans chacun de ses rêves, il voyait comment on touchait Sarah. Il disait, laisse-la. Mais entre-temps, brebis, âne et tout ce qu'il y avait comme richesse, l'abbé dit, mieux vaut peu avec la paix qui est beaucoup avec les troubles. La solution d'Abraham devient un cauchemar. Sa condition matérielle change, mais il est troublé. Combien de fois nous croyons résoudre des problèmes, mais nous créons d'autres problèmes. Et non seulement qu'Abraham crée un problème, mais il n'a plus de solution. Que faire? Si Dieu n'était pas intervenu, sa femme aurait commencé à enfanter là-bas. On l'appellerait grand frère. Viens voir notre fils. Seigneur, aide-nous à trouver des solutions au problème. Aide-moi à dire à ton voisin, en 2016, demande à Dieu de te visiter, évite ce genre de choses. Change de voisin, dis à l'autre voisin, trouve des vraies solutions qui ne créent pas d'autres problèmes. Et le chapitre 16 reprend la même chose. Abraham a un problème de conception avec sa femme. Pas de solution. Et Saraï vient lui proposer. Ça, c'est un pasteur de Nzambe Malamu qui a dit ça chez nous, une communauté chez nous. Il dit, rien qu'à voir l'empressement avec lequel Abraham est allé, on sent qu'il enviait déjà. Parce qu'on ne le voit même pas discuter. Il n'a même pas discuté, non, c'est quand même notre servante, je ne peux pas y aller. C'était déjà sa solution B, le plan B. Dès que Sarah a dit, ok, je pars. Oh, ton Dieu, tu attendais ça. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Deux aveugles, deux personnes irréfléchies. Frères et sœurs, la réflexion est d'une très grande importance. Proverbe 16, verset 20, dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Ce que je vais faire va me conduire à quoi? Si je pose cet acte, qu'est-ce qui va venir après? Il y a des gens pour qui la réflexion est comme un luxe. Abraham ne voit que le bout de son nez. Il ne voit pas tous les problèmes qui peuvent être créés. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays des Canaan, écoutez la suite, qui était déjà contenue dans le présent, mais qui était invisible. Il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5. Et Saraï dit à Abram, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Oh! Elle devient victime. Tout ça à cause de toi. L'original veut dire, elle veut dire, tu aurais dû aussi refuser quand je t'avais envoyé. C'est toi qui es à la base. La solution devient source de problèmes. Et Saraï ne s'arrête pas là. Elle dit, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Écoutez la conclusion, que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham, tu dois choisir entre Saraï et moi. Qui m'a envoyé vers entre Agar et moi? Qui m'a envoyé vers Agar? Et regardez l'impuissance d'Abraham au verset 6. Abraham répondit, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu les trouveras bon. Et la Bible dit, alors Saraï la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. J'imagine la souffrance d'Agar, d'Abraham, cette femme enceinte qui porte enfin la consolation. Et de sa case, Abraham entend Saraï qui est en train de la frapper, tu vas mourir. Aïe, aïe! J'aime Saraï, mais son ventre est vide. J'ai après aimé Agar, elle a un enfant, mais... Est-ce qu'il avait des sommeils doux? Et quand Agar s'enfuit avec les fruits de sa conception, est-ce qu'il pouvait jouir de la vie calmement avec Saraï? Comment nous solutionnons nos problèmes? Qu'il y ait des légèretés dans la maison de Dieu. Qu'il y ait des gens qui nous cachent leurs problèmes quand ça atteint un point de non-retour. Ils viennent vers nous en dernier recours. Pasteur, je n'ai que toi. Tu n'as pas que moi. Tu avais d'autres conseillers au culte. Abraham devient arbitre entre sa femme et cette dame parce qu'il n'a pas su gérer la pression. Ce qui arrive fait mal à Abraham, ça fait mal à Saraï, ça fait mal aussi à Agar et ça fait même mal à l'enfant qui est dans les ventres. Et tous ces maux auraient pu être évités si simplement quelqu'un avait dit non. Que des tragédies nous créons, que des douleurs, des tourments et des souffrances évitables dans lesquelles nous nous jetons nous-mêmes. Que des larmes versées et des plaies que l'on soigne, que l'on aurait pu éviter. Combien de fois la précipitation, les émotions et les sentiments guident nos actes alors que l'on aurait pu associer Dieu et voir avec les tenants et les aboutissants avant. Dieu est celui qui est capable de nous faire voir le futur caché dans le présent. Et nous pouvons éviter cela. J'aime le psalmiste qui, alors qu'il veut s'engager sur un chemin, fait cette merveilleuse prière qui est comme une ligne de conduite pour moi. Je prie que ce soit ton partage. Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parole de vie dit, regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Dans Exode 33, au verset 15, alors que Dieu demande à Moïse d'aller, j'aime sa prière. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. J'ai la garantie du succès si tu es mon partenaire dans cette marche. Je ne veux pas faire sans toi. Et c'est qu'Abraham a manqué à deux reprises. Un homme l'a eu et a prié pour l'avoir. Cet homme, c'est Salomon, nous allons voir cela. Mais avant Salomon, il y a un homme qui m'épate. Chaque fois que j'ai étudié cette parabole, j'ai dit, Seigneur, en tant que leader, donne-moi ces aptitudes. Matthieu 13, 26 à 30 que nous avons lu. Comme Abraham à deux reprises, cet homme aussi s'est retrouvé devant un problème. Il a planté un champ de blé. Et dans ce champ de blé, un problème a été créé. Vous avez dit, pendant qu'il dormait, son ennemi est venu s'aimer, livrer. Et le plus étonnant, pour montrer que cet adversaire n'était pas non seulement mauvais, mais réfléchi, malin. Matthieu 13, verset 25 dit, « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés. » Parmi les blés. Les contextes veulent montrer quoi? C'est-à-dire, il aurait pu dans ces grands champs venir dans un coin planté, livré. Les problèmes auraient été faciles à résoudre. Les contextes montrent, dit, parmi, réfléchi. Il semble qu'ils ont planté chaque fois une distance de 60 à 90 centimètres. Et lui, venant entre les deux, il laisse livrer entre les deux pour rendre la solution compliquée et difficile, réfléchi, malin, mauvais, stratège. Et un problème existe. Et dans la solution, nous voyons deux camps. Nous voyons des épidermiques, des émotifs primaires qui réfléchissent après avoir posé des actes. Et puis nous voyons un homme réfléchi. Problème il y a, mais comment tu résous? Comment nous résolvons? Il a un problème, écoutez ce que la Bible dit au verset 28. On lui a demandé d'où vient l'ivraie. Il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions arracher? C'est que veut les solutions rapides. Ils sont comme les tailleurs d'autrefois chez nous. Travail rapide et soigné. Nous voulons que ce problème s'arrête et tout de suite. Mais la réflexion absente. Des émotifs primaires. Mais lui, il veut aussi la solution, mais il est réfléchi. Écoutez dans sa réponse, il dit non. Pourquoi? De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Il dit, je veux d'une solution, mais je ne veux pas d'une solution qui crée un autre problème. J'ai investi mon temps, mon énergie et mon argent pour ces blés. Je ne veux pas, en enlevant libre, tout perdre. Et non seulement il est réfléchi, il est patient. Il dit, laissez-les croître ensemble. J'aime pas livrer, mais dans la solution, je suis obligé de venir quelquefois arroser livrer que je n'aime pas ivrer. Je t'arrose, mais attends. Je t'aime pas, tu sais. À cause de la réflexion. Il estime qu'il y a un moment favorable pour avoir une solution avec dégâts minimisables, dégâts zéro. Et ce moment, c'est la moisson. Il dit au moment de la moisson, je ne vais rien perdre. Le travail aura atteint son point maximal. Je vais récupérer mon investissement et le reste, je vais jeter. Mais si je le fais maintenant, les épidermiques disant, allez, que ça vole en éclats. Comment tu résous tes problèmes? J'en ai souvent parlé ici, j'ai été à l'école auprès de ce pasteur qui nous a encadré, le feu Jacques André Vernon, un homme. Une école lui-même. J'en ai parlé une fois ici, je me retrouve dans son bureau, il m'appelle, il dit, Roland, il y a un jeune homme, j'ai appris qu'il veut me parler, mais déjà tel qu'il a parlé dehors, il semble qu'il sera très dur avec moi. Veux-tu être à mes côtés? Il était assis là, moi à droite, et puis le jeune homme vient. 20, 22 ans, arrogant, genre d'arrogance qu'on ne peut avoir qu'à cet âge. Il rentre, il salue le pasteur, pasteur bonjour. Frère, bonjour.
Est-ce que vous êtes prêts? Je peux commencer à parler.
Ok.
Puis il a prié, Seigneur, je viens en mission de ta part. Et les choses que j'ai à dire sont d'un très grand sérieux, d'une grande importance. Je suis jeune, un peu comme Eliou, mais je peux parler devant les grands. Et j'espère qu'ils vont comprendre.
J'ai ouvert mon œil, j'ai dit, ok.
Et puis il dit, amen. Il dit, pasteur, tu es fatigué spirituellement. Ça fait 6 mois, tu ne fais que te répéter. Je me demande si tu pries. Regarde les 3 derniers dimanches. Déjà à la 10e minute, le message était fini. Tout ce qui restait, c'était la répétition. Quand il parlait comme ça, j'ai dit... J'ai regardé le pasteur Vernon, calme. Lui, des fois, quand tu lui parlais, il faisait des dessins inexplicables que lui-même connaissait. Et moi, en général, je sais que ma dose de colère est au top, c'est ma jambe droite qui signale. Hein? C'est l'esprit de Lumumba et de Ngongo Lutete. Mais mon pasteur était d'un calme. Et il parle, et il parle. Il dit, va te ressourcer. Il dit, j'aimerais te donner l'image. L'aigle, quand il a vieilli, il monte sur la montagne, il casse son bec. Pour se renouveler, renouvelle-toi. Et puis il est resté, quand le pasteur de Vernon lui a demandé, tu as fini? Il a dit oui. Ah, je m'attendais à une bonne réplique, bien assaisonnée des versets bibliques, dans les passages compliqués, Sophonie, Joël. Mais j'ai vu le pasteur Vernon dire, merci frère, est-ce que tu peux avant de sortir prier pour moi? J'ai dit, ah. Et puis on a baissé la tête. Écoutez la prière. Seigneur, je te rends grâce parce que ton serviteur a compris. Et il termine, il s'élève, il sort. Je suis resté avec le pasteur. Je lui dis, mais comment tu as réagi? Il dit, Roland, tu voulais que je lui prouve que j'ai pris? C'est la première fois que j'ai appris ces termes. Ce qui est bizarre, ça sortait de sa bouche. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un thermomètre de la prière qu'on met et qu'on voit, ok, 36 degrés Celsius. Comment tu résous tes problèmes? Est-ce qu'on éteint le feu par le feu? J'ai jamais oublié, 6 mois après, ce jeune homme est revenu à genoux. Le pasteur venant a dit, je savais qu'il allait revenir. Mais il a dit, Roland, il y a certaines choses, laisse Dieu s'en occuper. Ce qu'Abraham avait manqué, Salomon, comme je le disais, l'avait aussi manqué. Mais lui, il avait fait une prière. Dans 1 Roi 3, 7 à 9, il est placé dans une position et il sait que la résolution des problèmes sera son partage. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Et je n'ai point d'expérience. Accordant ton serviteur un cœur intelligent, mais il dit, pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal, pour distinguer ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Frères et sœurs, en ce début d'année, j'ai prié, ça s'est vraiment imposé dans mon cœur, je le crois, la visitation divine. Mais je crois que la visitation divine, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'onction, c'est aussi la sagesse. Que Dieu nous visite en nous remplissant de sagesse, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir en famille, à l'église, dans nos départements, que nous puissions solutionner nos problèmes avec et selon Dieu. Les problèmes avec les collaborateurs, les problèmes avec les amis, les problèmes avec l'épouse ou l'époux, que nous puissions ne pas faire du Abraham, mais demander à Dieu la grâce. Et en ce début d'année, je prie que vous et moi nous fassions ces 4 constats. Le premier constat, être conscient que ce n'est pas toujours facile de bien résoudre les problèmes. Deuxième constat, c'est être conscient de ses limites. Troisième constat, c'est être conscient de ce qui peut arriver lorsque l'on résout mal ses problèmes. Et quatrième constat, demander à Dieu la vertu du discernement qui change tout. Mais si je m'arrêtais là, mon message serait incomplet. Dieu me disait, en cette période de prière, alors que nous demandons la visitation divine, il m'a dit, Roland, je vais visiter certains comme j'ai visité Abraham malgré sa faute. Vous savez, quelquefois, vous provoquez des problèmes et vous n'avez pas de solution. Dans sa stratégie qu'il a montée, il a fait de Saraï sa femme. Et il était assis dehors, rempli de biens, de brebis. Il disait, Seigneur, je ne sais comment solutionner ces problèmes. Mais ce que j'aime, c'est que le Dieu de la Bible, c'est solutionner les problèmes que nous nous créons. Là où il était assis, Dieu est intervenu. Genèse 12, 17 à 20 le montre. Pharaon a été frappé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pharaon lui-même a pris conscience que ce n'est pas sa sœur. Il est venu blâmer et puis il a remis. Dieu m'a dit, Roland, il y a quelqu'un ce soir ici qui a provoqué un problème. Il est rempli de remords et de culpabilité. Il ne sait comment solutionner ses problèmes. Dieu m'a dit, il va les faire à ta place. Et il les fera bien. L'une des plus belles prières que j'ai trouvées dans la Bible, c'est celle de Jérémie. Jérémie dit, si nos péchés témoignent contre nous, agis en notre faveur à cause de ta bonté. Et David va plus loin, il dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui subsisterait? J'en ai parlé une fois ici, j'ai mon jeune frère qui vient après moi. Un mois dans sa marche, il a fauté, il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et le fait Jacques-André Vernon m'a obligé de le mettre sous discipline. J'oublie jamais ce jour-là, je lui parle au bureau, je lui dis, frère aimé, tu es sous discipline. Je demande aux musiciens de monter, je ne sais pas comment ils vont nous conduire durant ces quelques temps. Et alors qu'il voulait quitter mon bureau, il a demandé, grand frère, est-ce que je peux prier? Et à la fin de sa prière, il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Mais je priais, je pleurais aussi, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Lui et moi, on s'est retrouvés par terre quasiment. Il a fait l'une des plus belles prières que j'ai jamais entendues. Il a dit, Seigneur, comme Pierre, les jours où on est venu arrêter Christ, je viens de couper une oreille et je ne sais comment la remettre. Même si j'essaie de la coller, on saura que je l'ai collée. Mais Seigneur, toi, tu es capable de remettre les oreilles que nous, nous avons coupées sans que l'on sache qu'elles ont été coupées. Je ne sais quel problème tu as créé. Prends ton oreille et dis, Seigneur, je l'ai coupé. C'est moi le fautif. Seigneur, Saraï est là. C'est moi. Je ne sais comment résoudre cela. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire sincèrement, je suis dans les troubles. Je suis dans les tourments. J'ai un problème. Et ce problème, c'est moi qui l'ai créé. Et je ne sais comment les résoudre. Si tel est ton cas, excuse-toi auprès de ton voisin. Viens.
Et moi.
Car ce soir, ici, il y a les réparateurs de brèches.
Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique Parole du Salut, maison de rafraîchissement située au 8 rue Gilles Gued, 91 860 Épinay-sous-Sénart. Que Dieu vous bénisse.